Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la tête de Sonia Le Rambourg, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent déjà, parce que je pense qu'on a une bonne partie d'audience, d'abonnés et d'auditeurs, auditrices en commun. Sonia, je suis très contente de te recevoir pour qu'on en sache davantage ce qu'il y a dans ta tête. C'est aussi, j'avoue, une petite vengeance personnelle, puisque toi, tu sais ce qu'il y a dans ma tête depuis trop d'années maintenant. Ça doit faire 3 ans. Je pense que...
Oui, minimum.
Ouais, qu'on bosse ensemble. Donc voilà, Sonia étant, comme j'aime bien l'appeler, mon cerveau annexe, il y a une petite vengeance personnelle à venir décortiquer ce qu'il y a dans la tête de Sonia. Alors, Sonia, est-ce que pour celles et ceux éventuellement qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais commencer par te présenter de la manière qu'il te plaira?
Oui, merci beaucoup pour l'invitation, Laura. Je suis ravie, en vrai, d'être dans ce podcast parce que je crois que c'est vrai, ça fait 3 ans qu'on collabore toutes les deux, mais je suis pas sûre qu'on avait déjà enregistré un épisode ensemble. Donc, c'est parfait. Et la petite présentation. Alors, je suis online business manager. C'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs à structurer, restructurer leur entreprise. Je les accompagne sur la systématisation, la gestion de projets, la mise en place de métriques, etc. J'ai une partie de mon activité qui est en opérationnel, où j'accompagne vraiment directement sur le terrain les entrepreneurs. Et j'ai une autre partie plutôt consulting, où j'accompagne les entrepreneurs, en fait, je donne du conseil sur, j'audite et je donne des conseils simplement sur ce que je propose de mettre en place dans leur entreprise. Voilà pour la petite présentation pro. Et puis, pour parler un peu de plus perso, j'ai 35 ans et je vis actuellement dans la montagne, dans un tout petit village de 130 personnes. Mais connecté à la fibre, s'il vous plaît.
Ça, c'est un luxe que tout le monde n'a pas, n'est-ce pas?
Exactement.
Je n'ai pas. Très bien. Bon, alors, ton activité, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a eu des repositionnements, il y a eu des gros changements de vie aussi, perso, pro, etc. Et donc, après tous ces changements et là où tu en es aujourd'hui, quelle est, selon toi, une croyance que tu as et qui est un moteur pour réussir?
Alors, très très bonne question. Je pense que, je dirais, avec le temps, on peut arriver à tout. C'est pas forcément, comment dire, avec la discipline, etc. Oui, je pense que ça aide aussi, hein, le fait d'être discipliné et de mettre en place des choses un peu rythmées pour arriver à ses objectifs. Mais je pense que le temps, en fait, aide beaucoup. Si on lâche pas, je pense qu'on peut vraiment atteindre un peu tous les objectifs. Je dis ça parce que, en fait, quand on est dans le tout venant de notre activité, qu'on a le nez dans le guidon, on a cette sensation souvent que ça avance pas assez vite, qu'on n'arrive pas assez à faire x, y choses. Mais quand on regarde dans le rétro et qu'on se rend compte en fait qu'avec le temps de toutes les choses qu'on a accomplies, en fait c'est assez fou. Enfin moi quand je regarde en arrière, je me dis waouh, j'ai fait tout ça en fait, et que ce soit d'ailleurs pro ou perso. Donc je dirais que la croyance, en quelque sorte, c'est qu'avec le temps, on peut tout faire, on peut arriver à tout. Il faut juste se laisser le temps. Et je terminerai en disant que il y a aussi des choses qui ont besoin de maturer. Il y a des idées qu'on a aujourd'hui et que même si on a le plan d'action, on va pas être entre guillemets capable de mener ces actions-là parce qu'on n'a pas encore assez mûri, on n'a pas encore travaillé à cette chose intérieurement pour y parvenir. Et du coup, le temps permet aussi d'arriver à ces choses-là. Donc le temps, voilà.
Ça me fait penser, j'en parlais, tu sais, l'autre jour en story, où je faisais mon bilan de janvier 2023, là, et je remontais les stats du podcast, et je commençais à m'agacer, de dire, ça fait un an qu'on a mis en place une stratégie, avec Sonia, d'ailleurs, et ça n'avance pas, et les chiffres sont pas montés, machin. Et j'ai quand même eu la douce idée, alors d'où l'importance quand même de faire des bilans chiffrés, c'est pas toi qui diras le contraire, mais d'aller voir les bilans de janvier, février, mars 2022, un an plus tôt, pour en fait me rendre compte que si en fait la moyenne avait monté. Et je trouve que ça rejoint un petit peu ce que tu dis, où des fois t'as le nez dans le guidon et tu te dis putain ça avance pas, alors qu'en fait quand t'as pu renseigner ce parcours par des chiffres, des faits ou des fois par du qualitatif en écrivant tes pensées, ton état d'esprit, bah en fait tu constates que les années passant ça a progressé en fait.
Ouais, complètement. Complètement d'accord avec ça. Et oui, je valide à 300%. Avoir de la donnée, de la data, c'est primordial, que ce soit du journaling ou idéalement en business aussi des chiffres clés, c'est important.
Ouais, et puis ça permet de pas laisser, tu sais, trop l'émotionnel, justement, tu
Oui.
vois, là, dans mon exemple, je pense que l'émotionnel aurait démarré en disant, voilà, ça marche pas, on n'y arrivera pas, et tu peux après mettre 3 4 jours à te remonter, alors qu'en fait
Exact.
les chiffres tout de suite sont venus cutter le truc en disant, t'emballe pas, cocotte, c'est bon, tout va bien.
C'est ça.
Bon, alors à l'inverse, est-ce que tu as une croyance que tu as travaillée, voire que tu as même abandonnée?
Alors, abandonner, non, mais travailler, oui. Cette fameuse croyance, je pense que beaucoup de personnes l'ont, et notamment les entrepreneurs, que si ton agenda n'est pas rempli, eh bien, ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Et donc, bon, d'ailleurs, on en parlait toutes les deux en off il y a quelques jours. Je peine à vider mon agenda parce que j'ai conscience en fait que cette croyance est une croyance et qu'elle me freine en fait justement dans mon épanouissement puisqu'elle m'oblige en quelque sorte à remplir à ras-bord mon emploi du temps. Alors qu'en plus, moi-même, hein, j'enseigne et je transmets le « laisse toujours de l'espace dans ton agenda, c'est primordial, sinon tu ne vas pas t'en sortir ». Je sens, comment dire, c'est une sincère lutte contre moi-même pour laisser ce vide dans mon agenda. Donc j'y parviens et puis j'ai des rechutes. Il y a des moments, en fait, c'est presque rigolo, c'est que je me réveille un matin, j'ouvre mon agenda, ah purée, j'ai tout rempli. C'est pas possible. Comme si il y avait la part sombre de moi qui s'accroche à cette croyance qui remplissait cet agenda malgré moi en quelque sorte et que par moment j'arrive à sortir un peu de cette croyance parce que c'est quelque chose que je travaille quand même depuis un moment et je me dis eh, purée c'est pas possible et du coup je repars sur une bonne base. Ça va durer un certain moment parfois 2 3 mois et puis après pendant 2 3 mois ou pendant 2 3 semaines ça peut se redégrader. Enfin c'est vraiment en dents de scie. Mais voilà la croyance de laquelle j'essaye de me séparer.
Mais je trouve ça vachement bien que tu le présentes comme ça parce que très souvent on me le demande dans les appels découvertes du coaching, tu sais, de est-ce que vraiment on pourra éliminer les croyances, tu vois. Et je dis que la plupart du temps non, on pourra les flexibiliser beaucoup,
Oui.
mais même ce chemin de flexibilisation, je pense que c'est bien aussi que tu le renseignes comme ça parce que c'est pas pour beaucoup de croyances, en tout cas, il y en a qu'on flexibilise rapidement parce qu'elles sont plus récentes ou moins fortes, mais quand c'est des croyances socles comme ça, où tu as tout le système identitaire qui se repose dessus, eh ben, ça va être un travail de flexibilisation. Comme tu le sais, dans la formation sur les problématiques relationnelles, on avait parlé, quand tu as passé 30 ans de ta vie à apprendre le syndrome du sauveur, ben, en fait, tu vas pas sortir du sauveur en 3 jours. Et
Ça.
en fait, il y a plein de fois où tu vas te voir retomber dedans. Et en même temps, je trouve que, moi, je le dis souvent en coaching, je pense que tu as la bonne réaction de se moquer de soi-même. De le prendre aussi un peu à dérision, parce que de pas en faire non plus un drame, c'est normal que on flexibilise pas tout en 48 heures. Et des fois, de se
C'est
moquer de
ça.
soi-même en disant, dis donc, j'aurais pas joué au sauveur de l'humanité, là.
C'est ça.
Me serais-je donc pas pris pour Jésus ce matin?
C'est exactement ça. Et oui, ça permet aussi de se rendre compte que c'est pas magique et c'est on n'atteint rien en appuyant sur un bouton. Du coup, j'en reviens à la première croyance positive que j'ai.
Est-ce que tu as une croyance qui, en tout cas, à laquelle tu tiens et qui, selon toi, ferait du bien au monde entrepreneurial?
Alors, je dirais que la réussite n'est pas liée à un chiffre ou un palier qu'on pourrait avoir en tête, qu'on pourrait avoir visualisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a beaucoup d'injonctions sur la réussite dans le monde entrepreneurial. C'est normal dans un sens parce que, ben, en tant qu'entrepreneur, quand on parle de soi, on a aussi envie et c'est normal, tendance de parler de ses réussites. Et donc, toutes ces belles réussites qu'on affiche ont tendance en fait à mettre certaines injonctions du genre le nouveau, comment dire, c'est pas le RSA, c'est le nouveau SMIC entrepreneurial, c'est 10K par mois, quoi. Si tu fais pas 10K par mois, quand t'es freelance ou entrepreneur solo, ah bah, clairement, t'as pas réussi. Donc, je dirais que le monde se porterait mieux si on arrivait à mettre notre propre définition, je dirais, de la réussite. Bien sûr, s'inspirer des autres. mais ne pas se contenter de regarder ce qui se fait sur les réseaux, puisque bah, moi la première, hein, je veux dire sur Instagram, je partage pas les choses vraiment très négatives de ma vie. Il y a plein de moments où je suis pas bien, il y a plein de moments où je suis en remise en question, et je vois d'ailleurs. J'ai pas mal d'OBM et d'assistantes qui me suivent dans mon audience et qui, des fois, viennent me voir en me disant, Oh, mais Sonia, c'est génial, j'aimerais trop être comme toi, etc. Alors oui, il y a un parcours. Et en fait, c'est, j'en reviens à la première réponse, le temps, en fait. C'est le temps qui m'a permis d'avoir cette réussite-là. Mais pour autant, ben, je suis comme tout le monde. Des fois, mon organisation me déborde. Je me fais rouler dessus par mes journées. Comment dire, je me pose des questions. Je dépasse mes zones de confort parfois et je suis très, très mal à l'aise dedans. J'ai l'impression que je vais pas réussir. Bref. Je suis comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai tendance à partager, pas parce que je veux le cacher, mais c'est juste que quand je suis pas bien, j'ai pas envie d'aller sur les réseaux. Tout simplement. Je repense quand, avant, je vivais en voilier et j'avais un blog sur ma vie en voilier et j'avais vraiment à cœur de tout partager. Je voulais partager le bon comme le mauvais. Mais en fait, c'est pas que je ne voulais pas partager le mauvais, mais juste quand on est en mer. Par une houle de 2 ou 3 mètres de haut, avec du gasoil qui a coulé partout dans les cales, et que tu es à moitié en train de vomir pour nettoyer ça en même temps pour pas que ça reste trop et que tu es dans la houle. Désolé, je peux pas sortir mon téléphone en ce moment-là.
Ouais, c'est marrant hein, cette histoire de réseaux sociaux parce que pour l'instant, au moment où on enregistre là avec Sonia, il y a déjà eu 2 enregistrements avec Justine Armas et Pauline Sarda parce que je sais pas dans quel ordre sortiront les épisodes, mais où on a aussi avec Pauline et Justine abordé cette question des réseaux sociaux, de la comparaison, de la problématique de l'image que ça renvoie. Et la dernière fois, je rigolais parce que je t'ai reçue par Maëlan Faure que beaucoup connaissent ici sur son podcast Révèle-toi. Et puis je sais plus ce que je lui dis dans le podcast. Maëlan, elle me dit. Ah ouais, mais de toute façon, à chaque fois que je te suis sur Instagram, je me dis putain, mais Laura, mais elle arrête jamais. Je dis non, c'est moi qui ai l'impression que toi, t'arrêtes jamais. Et c'était très parlant de voir, surtout Instagram, parce qu'on a tendance à montrer un peu les coulisses, etc., en story, à quel point ça biaise complètement le regard qu'on a sur le business des autres, en fait.
Complètement d'accord avec ça. Complètement.
Et t'as parlé d'un truc important, donc qui était d'introjecter notre propre vision de la réussite. Je ne peux que être d'accord avec ça, c'est quoi ta vision de la réussite?
Alors, tu fais bien de me poser la question. J'ai travaillé sur ma vision il y a quelques jours, donc c'est très clair. En gros, moi, la vision, ma vision de la réussite, c'est une. En fait, je ne suis pas très loin, finalement. Je dirais que j'ai atteint le level 1 de ma vision de la réussite. Il y a plein de levels à passer. Mais en gros, c'est une vie, enfin, une vie où j'ai une liberté géographique complète, ce qui est complètement le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'habite dans la montagne en mode sédentaire, mais demain, si je veux louer ma maison et partir faire un voyage au Canada au hasard, c'est pas du tout prévu.
Lucas, mon chéri, si tu m'écoutes, ce n'est pas du tout dirigé pour toi, chérie.
C'est ça. Ouais, c'est prévu. On en parle. Donc, on est raccord là-dessus. Bah, en fait, c'est quelque chose que je peux faire. Je peux pas le faire en un claquement de doigts, mais voilà, ça reste quand même une possibilité. Donc, pour moi, la réussite, c'est un, la liberté géographique, deux, la liberté financière. Alors, qu'est-ce que j'entends par liberté financière? C'est de ne pas avoir 100% de ses revenus qui sont corrélés à 100% de son temps. Alors évidemment, on travaille tout le temps. Je veux dire, ça n'existe pas, hein, les revenus complètement passifs. Je veux dire, même dans l'immobilier, il faut entretenir les investissements qu'on a faits, etc. Il y a toujours des choses à faire, ou on peut payer des gens pour le faire, mais il y a quand même des choses à faire. Donc je parle pas de revenus passifs, mais je parle du fait de, comment dire, d'avoir un petit peu, ou maximiser, en tout cas optimiser, le fait d'avoir décorrélé son temps au revenu, et donc ne pas être à 100% dans je fais du consulting, je fais de l'opérationnel, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je travaille actuellement, j'y suis pas encore. Par contre, tu vois, autant la liberté géographique, pour moi, c'est quand même relativement check, autant là-dessus, non. Et pour autant, j'ai pas spécialement non plus envie d'être de faire des formations en ligne ou tu vois ce genre de business model qui j'ai essayé et me convient pas vraiment. Donc voilà. Et en termes de revenus, l'idée pour moi, qu'est-ce qui fait que je suis libre aussi financièrement, c'est que c'est pas que je compte que j'ai plus besoin de compter mes sous, mais comment dire, que je suis à, que je couvre entièrement mes besoins et plus. C'est-à-dire que il y a toujours dans le revenu un du durable pour les plaisirs, les choses qu'on a envie de faire, et deux, de quoi faire des investissements et justement aller augmenter cette liberté financière.
La
Voilà.
dernière fois, j'écoutais, je crois que c'était Oussama Ammar. Enfin, je crois qu'il faut faire attention quand on prononce son nom depuis un an à
Oui.
lui. Je sais plus où je l'ai entendu parce que je crois qu'on recommence à le revoir pas mal en ce
Oui,
moment.
il est revenu.
He's coming back. Et disait, ouais, revenu passif de l'immobilier. Dis-moi, j'en ai plein des copains qui font du revenu passif avec l'immobilier. Et je connais bien le revenu passif de l'immobilier où tu passes tes journées au téléphone avec les plombiers. Tu
C'est ça, mais
Et
c'est ça.
ça m'a fait rire. Parce que, ouais, c'est comme tu disais, c'est une affabulation de se dire, en fait, je vais louer des appartements ou je sais pas quoi, puis je serai tranquille. Parce qu'en fait, tu sais que tu vas passer ton temps à gérer les plombiers, les impôts, les taxes
Exact.
d'habitation, machin.
C'est ça. Par contre, ton temps n'est pas corrélé, enfin, tes revenus, pardon, ne sont pas corrélés à 100% de ton temps. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que du coup, tu as vraiment un effet de levier et tu peux faire un, comment dire, tu peux avoir une, justement, cette fameuse scalabilité, tu vois, de revenus, que te permet pas, hein, que te permet pas, un business model où tu fais que du consulting ou ce genre de choses, quoi. Voilà.
Mais tu sais, ça tombe bien que tu parles de scale parce que du coup, ça me fait penser à te poser une question que j'avais pas prévu de te poser. Mais il y a quelques semaines, j'entendais Julien Mussy, leader de Ton Marché, qui était interviewé par Louise Aubéry et qui racontait que il a scalé du coup cette entreprise à des succès qu'on lui connaît, de millions de chiffres d'affaires, de je sais plus combien ils sont dans l'équipe, 20 ou 30, quelque chose comme ça. Et où en fait, il disait, mais je me suis retrouvée à un moment à me dire, mais en fait, fair enough, quoi. Tu vois, genre, OK, bon, ben, j'ai scalé, j'ai fait des millions de chiffres, mais il disait, en fait, moi, ce que je voulais faire de base, c'était former et coacher. Et au final, bah, en fait, je suis un gestionnaire, un manager, je travaille que 10 heures par semaine, mais en fait, je me fais chier. Et du coup, je voulais te poser cette question parce que quel est ton avis à toi et ton avis aussi en tant qu'OBM qui accompagne, du coup, j'imagine, plein de business models différents. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les infopreneurs, parce que globalement, c'est ce que nous sommes, pour faire simple, entrepreneurs du service, est-ce que la seule manière de scaler, c'est de faire de la formation en ligne? Est-ce que pour tous ceux comme moi, par exemple, dans le métier technicien entre guillemets, c'est d'être coach, thérapeute ou je ne sais quoi. Est-ce que le scale implique forcément que je vais plus faire ce métier? Bref, c'est quoi ton retour d'expérience là-dessus?
Oui, alors très bonne question, je vais essayer de pas trop m'étaler, mais non, déjà, il n'y a pas que la formation en ligne pour faire un peu de scalabilité dans son business. Ça, c'est la première chose. C'est vrai que la formation en ligne est un très bon levier parce que là, vraiment, on peut faire du scale, c'est-à-dire augmenter les revenus sans augmenter les ressources, que ce soit des ressources en temps, en homme, peu importe où, ou même en argent. C'est plus facile de faire de la croissance, je trouve, que du scale, parce que donc la croissance, c'est une augmentation des revenus, mais à laquelle, en fait, enfin, dans laquelle est corrélée de l'augmentation de ressources, en fait. On augmente les ressources pour augmenter les revenus. Mais c'est quand même très bien parce que ça reste un, je trouve, faire de la croissance un moyen de ne pas corréler son temps à ses revenus. Et donc, il y a plein de modèles comme modèle entre guillemets agence, c'est-à-dire on va par exemple déléguer, comment dire, à d'autres freelance ou monter une petite agence pour, ben, par exemple, déléguer ses coachings, déléguer ses consultings, etc. Ça peut être une solution. Bien sûr, il y a la solution de la formation en ligne, mais on peut aussi, j'en sais rien, là, j'ai pas trop d'idées, mais on peut aussi imaginer par exemple. Au hasard, créer un logiciel en SAS, ce genre de choses. En gros, l'idée, c'est simplement de trouver des activités qui ont un rapport avec l'expertise de base et qui ne nécessiteraient pas forcément votre présence, en fait, au quotidien. Le tout pour le faire, c'est de bien processiser, avoir une bonne idée de ce que vous faites, de bien le processer et de, entre guillemets, l'industrialiser, je mets des guillemets à ce terme-là, mais c'est ça qui permet en fait de faire un peu de scalabilité.
Sujet absolument passionnant, mais on va se garder
Oui.
pour notre épisode sur l'optimisation, la structuration, tous ces sujets liés au scale.
C'est ça.
Revenons donc dans la tête de Sonia Le
Tout à
Rembourg
fait.
avec une question un peu plus émotionnelle qui est, quelle est selon toi l'émotion que tu ressens le plus dans ton business et celle que tu ressens le moins?
En fait, il y en a deux à chaque fois, je crois. Je dirais que pour ça, celle au pluriel que je ressens le plus, c'est ces deux sensations un peu extrêmes, l'excitation et le stress. Clairement, c'est les montagnes russes entrepreneuriales. Voilà. Donc, je dis pas que je ne suis jamais dans le milieu plutôt serein. Mais c'est vrai que si je dois faire le compte, c'est vrai que je suis quand même souvent, entre guillemets, dans l'excitation, c'est-à-dire, oh, ça va être génial, oh, j'ai trop hâte d'être demain parce que j'adore ce que je vais faire demain, oh, j'adore ça, oh oui, ça va être trop cool, oh, ce nouveau projet m'excite de ouf et tout. Et stress, genre, mon Dieu, je vais jamais y arriver, ou je vais pas finir ma to-do, enfin voilà, ce genre de réflexion. Et celle que je ressens le moins, c'est celle du milieu, en fait, hein. C'est un peu le côté sérénité, calme, voilà. Je dis pas que je le ressens pas. Il y a des moments quand même où je suis quand même en phase avec mon business et où on est bien tous les deux, mais ça dure jamais très longtemps. Et celle que je ressens le moins aujourd'hui, c'est la peur aussi. Tu vois, ça, c'était une émotion qui pouvait m'accompagner, notamment à mes débuts. Tu sais, quand on débute, on n'a pas de revenus stables, on ne sait pas si demain on va avoir des clients, etc. Donc c'est vrai que ça amène quand même pas mal d'angoisse. Et ça, je dis pas que je le ressens jamais, mais ça reste quand même quelque chose qui est anecdotique aujourd'hui. J'ai pas toujours mes prévisionnels remplis sur les 6 prochains mois ou les 3 prochaines années. Mais par contre, j'ai toute confiance en fait en ma capacité de générer de l'argent. Et donc voilà, c'est pas une, ça, du coup, ça va plutôt être du stress, mais pas forcément de la peur. Voilà.
Ça m'intéresse ce que tu dis sur la peur parce que qu'est-ce que tu en penses de ma réflexion, à savoir évidemment le côté très positif de plus être envahi par la peur, parce que la peur c'est aussi freinant, paralysant, minimisant, etc. Et puis ça montre, comme tu disais très justement, que en fait t'as gagné en confiance en toi et en confiance en tes capacités à générer de l'argent, à te sortir d'une situation difficile si elle venait à se présenter. Et l'autre truc qui est en même temps, la peur, elle peut aussi venir dire, tu sors de ta zone de confort, donc j'ai de la peur, mais cette peur vient de dire que c'est important pour moi. Est-ce que du coup, tu continues à sortir de ta zone de confort, mais ça sera dû plutôt par du stress? Ou est-ce que, attention, provocation, Sonia, tu ne sors plus de ta zone de confort?
Je sors plus de ma zone de confort. Hein.
Tu m'y laisses tranquille maintenant, d'accord?
J'y suis, je suis bien dedans. Si, alors, en effet, je sors de ma zone de confort. Je dois avouer, par contre, que c'est moins régulier qu'à mes débuts. À mes débuts, c'est vrai que, en fait, quand tu débutes en entrepreneuriat, en fait, tu es tout le temps en
Oui,
train de
t'es tout le temps
sortir.
dehors, c'est clair.
Ce qui, du coup, chez moi, générait quand même pas mal
Ouais, c'est
d'émotions, un peu de
fatigant,
la
ouais.
peur. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins fréquent. Par contre, et on en parlait en off toutes les deux il y a quelques jours, quand ça m'arrive maintenant, my God, c'est pas régulier, mais alors je le sens passer. La sortie de zone de confort est très désagréable. Elle est très marquée. Je le sens vraiment. C'est assez waouh. Et là, en fait, je suis en plein dedans d'ailleurs en ce moment. Donc, l'émotion ressentie, est-ce que c'est du stress ou de la peur? Très bonne question.
Sonia a été très bien formée aux côtés de Laura Besson. Elle n'a pas le droit de se tromper là-dessus.
Non mais c'est en vrai, attends, excuse-moi, c'est une très bonne question. Quelle est l'émotion ressentie à ce moment-là? Mais en fait, c'est un peu entre les deux. Je ne sais pas comment dire parce que c'est pas un simple stress. Tu vois, parce que pour moi, le stress, je le mets en face de oui, ok, ça me stresse, mais je sais que ça va bien se passer en quelque sorte. Versus la peur, c'est vraiment une émotion qui vient me dire t'es sûr là? Parce que franchement. Je le sens pas du tout ton truc. Et ça serait bien qu'on le fasse pas. Oui, donc c'est de la peur que je ressens.
Ça serait bien qu'on aille se coucher maintenant, merci.
Voilà, donc. Bon, j'ai fait mes petites introspections en direct.
Ah mais
Mais.
de toute façon, ce format dans la tête 2 est un format psychanalyse audio.
Voilà, parfait. Donc oui, quand je sors de ma zone de confort, c'est de la peur que je ressens. Et en ce moment, je suis en plein dedans. Et j'ai retenu en fait la sortie de zone de confort pendant un moment. Je me suis dit non, 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 je veux pas y aller. C'est pas nécessaire, pas maintenant. C'est pas le bon moment. On verra plus tard. Tranquille. Mais en fait, non, c'était vraiment nécessaire de le faire. Donc à un moment donné, il y a aussi des facteurs extérieurs qui m'ont entre guillemets obligée d'y aller. Et donc oui, c'est un peu de la peur que je ressens en ce moment.
C'est incroyable, hein. Bon, toi, tu en as été témoin de mon côté pendant des années. Tous les bobards qu'on est capable de se raconter toute la journée quand on a peur d'aller quelque part.
Oui.
Et comment le cerveau est capable de... Oui, mais non, mais alors attends, parce que j'ai de super arguments. Bon, c'est de la lutte émotionnelle, tu vois. Et je trouve ça assez dingue. La dernière fois, je me suis fait un peu secouer en intervision par un collègue à qui je fais de l'intervision et qui m'a dit, ton seul objectif cette année, c'est de faire ça. Et tout ce que tu fais qui n'avance pas vers cet objectif, c'est que tu te racontes des bobards, tu
C'est ça.
vois. Ça fait mal. Mais les psys sont terribles.
C'est ça, ça fait mal, je suis d'accord.
Question métaphysique. Y a-t-il
Oui.
quelque chose en laquelle tu crois, une valeur, une croyance, un mindset, et qui, selon toi, ferait du bien au monde si on s'en occupait davantage?
Yes. Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, justement, quand je vivais en voilier. Où du coup j'ai commencé à devenir indépendante, freelance, et à découvrir ce merveilleux univers de l'infoprenariat, etc. Et où en fait j'ai découvert vraiment la liberté. Déjà parce que bah, j'avais une liberté géographique et de mouvement, mais surtout, enfin surtout en tout cas sur le sujet qui nous concerne là, une liberté de choix dans mon quotidien. Et ça c'était vraiment quelque chose de nouveau et de très 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 fort, c'est-à-dire que je pouvais choisir si je travaillais sur X ou Y sujet, si je faisais X ou Y chose dans ma journée. Et d'ailleurs, c'est très perturbant au début, hein. Quand on a une liberté complète, j'ai mis un moment en fait à presque à l'accepter. En me disant, tu sais, je me mettais moi-même des barrières, des obligations. Et en même temps, une fois que je l'ai eu accepté et que j'ai compris que en fait c'était ça le synonyme de liberté. J'ai compris en fait tout ce que ça pouvait m'amener dans ma vie et notamment en fait en termes d'épanouissement. Et je me souviens, j'avais de grands débats philosophiques avec Lucas à l'époque où je disais mais purée, mais en fait mais si tout le monde pouvait faire ses propres choix, mais le monde se porterait tellement mieux. Je prends juste l'exemple de mes parents et je pense qu'on a beaucoup de parents. S'ils sont pas entrepreneurs ou qui n'ont pas forcément pu suivre la carrière qu'ils voulaient parce que à l'époque on n'était pas dans le même mindset qu'aujourd'hui, on rentrait dans un boulot et on y passait les 40 années de sa vie. Et donc quand je vois mes parents en fait qui ont plus ou moins choisi leur carrière, plutôt plus pour mon père, plutôt moins pour ma mère, et même tu vois quand je vois mon père qui a choisi sa carrière et qui d'ailleurs avait un super mindset je trouve un peu entrepreneurial tu vois parce qu'il est parti de zéro, il a même pas son brevet des collèges et il a fini cadre sup tu vois dans une boîte donc c'est plutôt pas mal comme parcours mais malgré tout même si c'est un beau parcours professionnel il a été enfermé en fait toute sa vie il a jamais vraiment choisi les directions, il les a souvent subies on lui a toujours imposé des résultats, on lui a toujours imposé des objectifs et ça en fait je trouve que ça les a limités en fait dans leur vie. Ça les a complètement limités et du coup ça a limité leur épanouissement, ça a limité leurs possibilités dans la vie. Et je me dis, ils auraient pu faire tellement plus, tellement mieux, tellement par rapport à ce que je connais d'eux, tu vois. Ça me rend triste. Et du coup, même si c'est pas une histoire horrible, il n'y a rien de mal dans ce schéma-là, tu vois. Je pense que c'est l'histoire de beaucoup de monde au final. Et voilà, je me dis que si, en fait, on avait tous cette opportunité de choisir, d'avoir vraiment cette liberté à 100%, telle que je l'ai vécu en fait, bah le monde irait bien mieux, je pense, sur plein plein d'aspects. Voilà.
C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on entend souvent les entrepreneurs dire que l'entrepreneuriat, c'est pas de pas avoir de contraintes, c'est pas la totale liberté, c'est de choisir les contraintes avec lesquelles on va dealer
Oui.
au quotidien. En tout cas, je pense que c'est plus facile à dire pour des entrepreneurs de notre milieu, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup d'entrepreneurs du service, infopreneurs qui bossent à la maison, etc. Parce que je ne suis pas sûre que nos confrères et consœurs du milieu de la start-up, par exemple,
Non.
voilà, aient tout à fait la même vision des choses parce qu'ils ont des contraintes fortes, souvent en termes de temps, d'investisseurs, etc. Donc, je pense pas qu'ils se considère autant que nous sans contrainte, mais en revanche ça me fait penser à Marc Simoncini qui est l'ancien, enfin qui est pas l'ancien, qui est le fondateur de Mythique, mais qui est du coup l'ancien boss de Mythique. Et je l'ai pas lu encore son bouquin, mais je sais que son livre sur son parcours entrepreneurial s'appelle Une vie choisie
C'est
et
ça.
où il parle beaucoup de. Tu l'as lu?
Je l'ai pas lu, non,
Tu l'as pas
mais
lu, hein?
je suis d'accord avec le concept.
Ouais, voilà, oui, il parle beaucoup de tous les échecs dans sa vision des choses, de dire qu'en fait tous ces échecs, à force d'apprendre de ces échecs, lui ont permis la réussite qu'on lui connaît. Et je trouve qu'une vie choisie, c'est un bon résumé, entre guillemets, de ce que tu dis là, et je pense de la vision de beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs.
Oui, complètement. Et je rebondis rapidement sur ce que tu dis. Je suis complètement d'accord sur le fait que la liberté dont je parle n'est absolument pas une liberté complète et totale. C'est-à-dire que bah, moi, je suis prestataire de service. Hein, j'ai quand même des engagements envers mes clients. Donc, je peux pas dire demain, oh, bah, en fait, les gars, je me barre à Bali pendant 3 mois. Déso, pas déso. Donc, non, non, clairement, il y a des contraintes. Mais c'est exactement ce sur quoi tu as rebondi. C'est des choix que j'ai pu faire en fait. Et au-delà de ça, même, c'est-à-dire que j'ai fait des choix à mes débuts, etc. Mais aujourd'hui, j'ai encore cette possibilité de choix. Bien sûr, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, mais si quelque chose ne me convient pas en fait dans le quotidien que j'ai aujourd'hui, avec les contraintes actuelles, j'ai le choix de les modifier et de travailler en fait, d'avancer pour modifier. Donc c'est vrai que ce concept de choix est assez important, je pense.
Sonia, qu'est-ce qui
Oui.
occupe tes pensées en ce moment?
Il y a trois choses. Alors, business, hein, je parle.
Ouais.
Il y a trois choses. Un, ce qui hante mes pensées et qui est dû à ma sortie de zone de confort actuelle. Il y en a deux, en fait, qui sont dues à la sortie de zone de confort. C'est la refonte de mon business et un projet dans lequel je me lance, qui est la création d'un logiciel en SAS. Qui sera en fait, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes, mais qui sera un logiciel de pilotage en fait à destination des indépendants et des freelances, qui est tout simplement en fait la projection, enfin disons la méthode que j'applique avec mes clients actuellement, transposée dans un outil. Et donc ces deux choses-là me font terriblement sortir un de ma zone de confort et deux hantent en effet un petit peu mes pensées actuelles. Pourquoi la refonte de mon business? Parce que il y a quelques mois, j'ai une mission client qui s'est terminée. C'était ma mission principale. Elle représentait 80% de mon temps et de mon chiffre d'affaires. Et c'est une mission qui a duré quasiment 3 ans. Et en fait, bah forcément, quand une page comme ça se tourne, il y a un peu comme une nécessité de rouvrir une nouvelle page. Et donc de tout réécrire. Enfin, de tout réécrire. On s'entend, hein, je prends le bagage quand même que j'ai avec moi. Mais du coup, c'est très challengeant. Et en fait, bah tiens, on en revient exactement à ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai tous les choix possibles, et c'est pas évident de faire des choix. Donc ça occupe pas mal mes pensées. Donc ça, c'est les deux principales choses qui occupent mes pensées. Puis la troisième, c'est une chose plutôt cool. Enfin, les deux aussi, hein, sont super cool, mais vous avez compris, je suis un peu dans l'émotion. On va tous mourir. La troisième, c'est plutôt très positif et qui est plutôt dans l'émotion de l'excitation. J'ai une nouvelle mission OBM en opérationnel dans une super entreprise. Et c'est une mission super challengeante et hyper intéressante avec une équipe. Il y a tout à refondre, un gros audit à faire à l'intérieur, etc. Donc ça me demande d'aller au-delà de ce que je connais. Comment dire, je sors un petit peu de ma zone de confort, mais tu sais, il y a une zone tampon entre la zone de confort et la zone de non-confort. Et en fait, dans cette mission-là, je suis dans la zone tampon. Et donc, c'est hyper chouette parce que tu es dans le challenge. Donc, ça occupe pas mal mes pensées parce qu'en fait, il y a plein de moments où je me dis, oh, je pourrais faire ci, oh, je pourrais faire ça, etc. Mais je suis pas dans l'angoisse de, mon Dieu, je vais pas y arriver parce que ça reste quand même dans mes compétences. Voilà.
Alors, première chose sur laquelle je voulais rebondir au tout début, tu as parlé d'un logiciel SAS. Est-ce que tu peux quand même expliquer à nos auditeurs auditrices qui ne connaissent pas ce langage ce qu'est un
Oui,
logiciel SAS?
c'est un software, pardon pour mon anglais, as a service. C'est-à-dire, en fait, c'est tous les logiciels qu'on utilise aujourd'hui, Canva, Typeform, ClickUp, Notion, etc. Ce sont des softwares, mais as a service, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de les télécharger sur votre ordinateur, on y a accès directement depuis Internet. Et donc là, l'idée, c'est, ça va être vraiment un outil de pilotage, la première version. Elle va se concentrer sur la partie pilotage financier, donc grosse sortie de zone de confort, hein. Et parce que bon, les finances, oui, mais bon, je suis pas non plus une DAF, tu vois, ou un comptable. Et voilà, et puis après, l'idée, c'est d'aller y injecter un petit peu tous mes outils de pilotage que je peux utiliser au quotidien. Voilà.
Ok, donc il y a beaucoup de mouvements.
C'est ça.
Alors, pour arriver doucement mais sûrement à la fin de cet épisode, quelles sont les trois habitudes que tu as prises ces dernières années pour être bien dans ta tête et donc de ce fait bien dans ta boîte?
Tout à fait. Grosso modo, ça tourne autour de la déconnexion. Habitude numéro 1, week-end et soir, déconnexion totale, éteinte de l'ordinateur et pas de travail, quoi. C'est-à-dire que, sauf exception, et encore une fois, s'il y en a, c'est choisi. C'est pas de la contrainte du genre je dois travailler parce que je suis en retard. Et en fait, si je suis en retard, je suis en retard. Tant pis, le monde ne va pas s'écrouler. Il y a une expression qu'on aimait bien dire avec The Bee Boost quand je travaillais chez elle. C'était les urgences, c'est à l'hôpital, et les miracles, c'est à l'église. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes ni l'un ni l'autre. Donc, le monde ne va pas s'écrouler. Déconnexion totale le week-end et le soir. Sauf si j'ai envie de travailler sur un projet parce que ça me fait plaisir. Voilà. Deuxième habitude, c'est picorer dans ma boîte à outils bien-être. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je suis pas du tout une nana à routine. Tu vois, me lever le matin, faire du yoga, faire du journaling, ta ta ta. C'est vraiment pas mon truc. Les routines du matin, les routines du soir, j'y suis jamais arrivée. Par contre, en essayant toutes ces routines, ben, j'en ai apprise plein. Et donc j'ai vraiment maintenant, après toutes ces années, une vraie boîte à outils avec dedans, il y a du yoga que tu m'as transmis, il y a de la méditation, il y a du sport, il y a de la marche, il y a, j'en sais rien, écouter de la musique, il y a de la danse. Bientôt, j'ai envie d'y mettre dedans du chant aussi. Donc plein de choses que je mets dedans. Et quand j'en ai besoin, ben, je les sors en fait. C'est vraiment à la demande. Et la troisième habitude, c'est de poser des vacances à l'avance et sur l'année. C'est-à-dire que dès le mois de décembre ou janvier, l'idée, c'est vraiment la première chose que je pose avant même presque d'avoir fait mes objectifs. Bien sûr, j'ai déjà pensé un peu à mes objectifs parce qu'on les a en tête globalement, mais avant de les avoir posés, de m'être posé dessus, je pose d'abord les vacances. Ça peut bouger dans l'année parce que on est entrepreneur et ce qu'on a en tête en janvier, c'est généralement pas ce qu'on a en tête en décembre. Donc c'est OK de faire bouger les vacances, mais le fait de les poser, ça va rythmer l'année et ça va vraiment, entre guillemets, obliger à des temps de repos qui sont nécessaires, qui sont salvateurs. Voilà, généralement, c'est au moins un par trimestre. C'est bien si on peut prendre au moins une petite semaine de vacances par trimestre, c'est l'idéal. Voilà.
Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Moi, je ne l'ai pas fait jusqu'ici, jusqu'à 2023. Ça m'a bien posé problème des fois. 2022, sans les avoir posés, finalement, j'ai réussi à les caser, etc. Mais bon, c'est un peu décidé à la dernière minute, etc.
Oui.
Donc là, pour 2023, pareil, je les avais posés.
Posé.
Mais et c'est fou parce que tu les poses. Et pourtant, moi, tu le sais, hein, je suis plutôt dans un mindset de occupe-toi de ce qui est vraiment important. Ta boîte, c'est super, mais c'est pas ça qui comptera sur ton lit de mort, quoi. Et ben, malgré tout, tu poses tes vacances et quand arrive ta semaine de vacances, t'as vu, t'as ce petit truc du mental qui revient, qui dit, ouais, y a quand même, il y a ça à finir, puis t'as fait tes montages de podcast, puis tu pourrais faire. C'est terrible,
Ah
ça, quand même.
oui. Alors, en effet, je précise, c'est-à-dire que moi, par exemple, là, il y a ma première semaine de vacances posée officiellement qui arrive dans 2 semaines. Et donc, je vois l'agenda, comment dire, se remplir là, sur ces 2 dernières semaines. Et c'est cette envie irrépressible de dire, non, mais c'est pas grave, au pire, je mets ça
Non mais
sur
t'as
la
vu,
semaine de vacances.
c'est un truc de fou. Là, moi j'ai une semaine là dans une semaine, tu vois,
OK.
et qui n'est pas choisie à la base de ma part, puisque c'est ma belle-famille qui part en vacances au ski, ils font
D'accord.
ça tous les ans. Donc bon, bah, c'est la semaine au ski. Bon bah très bien. Bah, à ce moment-là, je poserai ma semaine de vacances à ce moment-là, tu vois. Et bah, tu vois, plus les jours passent, plus j'ai mon mental qui dit non. Non, non, mais c'est-à-dire que tu vas pas du tout. Alors, j'irai pas skier, quoi qu'il en soit, parce que ceux qui me connaissent savent bien tout le bonheur que m'inspire la neige. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, j'ai ce mental pour dire non, 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 tu vas pas rester à lire au bord de la cheminée. Non, 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 parce qu'en fait, il faut vendre des formations, parce qu'en fait, il faut faire les montages du podcast. Non, mais
C'est
t'as ce
ça.
truc où tu dis, mais en fait, si je m'arrête, ça va être une catastrophe. Je vais le payer trop cher après. Alors qu'en fait, à chaque fois qu'on a pris des vacances, c'est pas vrai, tu vois. Tu l'as pas payé si cher que ça en revenant, voire au contraire, parce que t'es revenu avec beaucoup d'énergie et de repos, quoi.
Exactement, c'est rien passé du tout, limite personne n'a vu que tu étais partie, c'est plutôt ça. Et tu t'es
Ouais.
reposée, complètement.
Bon, Sonia, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou as-tu eu l'espace de dire tout ce que tu souhaitais?
Mais écoute, je pense qu'on a exploré un bon nombre de sujets. Merci pour bah, ce coaching, hein.
C'est la séance gratuite.
C'est ça. Et non, c'était très intéressant de justement d'explorer un peu tous ces sujets. Donc, je pense qu'on a fait le tour.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup. De toute façon, on va te retrouver. Alors, je sais pas comment sont sortis les épisodes, donc peut-être qu'ils t'auront retrouvé dans les épisodes précédents pour parler d'optimisation, de structuration de business, ou peut-être que vous la retrouverez dans les épisodes suivants pour parler d'optimisation et de structuration de business. On a un petit peu de mal, pour être transparente, à caler notre planning de sortie de podcast parce que j'ai pas mal d'interviews et que Sonia est en retard. Voilà, je te balance
Boum.
devant tout le monde. Je viens complètement de Poucave Sonia en direct live, mais ça me fait plaisir. Donc du coup, on a un petit peu du mal à
C'est ça.
s'organiser, mais on va y arriver.
Alors
Donc
attends, attends, mon ego a besoin de parler.
vas-y, on
Il
t'écoute.
souhaite s'exprimer, s'il vous plaît.
On l'écoute.
Je tiens à dire que je ne suis pas en retard, mais que je ne me suis pas fixé de deadline en fait pour certains projets. Parce que, et en fait, c'était surtout pour passer un message, il y a des projets qui sont des projets passion, entre guillemets, que tu te fais pour te faire plaisir. Et en fait, j'aime bien ne pas me fixer de deadline trop forte pour ces projets-là, parce qu'ils deviennent vite stressants, alors qu'à la base, ils sont là pour te faire plaisir. Voilà, donc il y a l'ego, mais il y a aussi le petit message derrière, je trouve
Donc, je
intéressant
ne me
là.
fixe pas de deadline, même si ça emmerde mes collègues.
Voilà.
Non, mais t'as raison, c'est vrai que je trouve ça bien. Je me rappelle une fois d'ailleurs où j'avais une idée de projet et je tournais, virais. Pareil, tu vois, avec le mental à dire ouais, je le fais, mais je le fais pas. En même temps, si je le fais, je m'éparpille. En même temps, si je le fais pas, ça me fait chier. Enfin, voilà. Et donc, évidemment, quand j'ai des moments de déperdition mentale où je suis en lutte avec moi-même et où je sais plus quoi faire, j'appelle Sonia. Du coup, mon
Better
cerveau.
call Sonia.
Voilà, mon cerveau annexe préféré. Et tu m'avais répondu à ce moment-là, ne te prive pas de le faire, on va s'organiser évidemment pour pas que ça parte en cacahuète, mais ne te prive pas de le faire parce que c'est notre essence même d'entrepreneur de créer des enfin de créer tout court d'ailleurs, mais de mener des projets, de les faire grandir, même s'il faut optimiser, structurer pour
Bien
pas que ça
sûr.
parte en cacahuète. Et effectivement, c'est difficile hein, quand t'as ta boîte, parce que t'as beaucoup d'idées, généralement,
C'est
t'as envie
ça.
de faire plein de choses et en même temps, t'es entrepreneur pour pouvoir faire plein de choses et après, bah, il faut faire des choix et des fois, t'as ces projets, entre guillemets, secondaires qui n'avancent pas comme tu le voudrais parce que,
C'est
bah,
ça.
priorité, comme toi, à tes clients, quoi.
C'est ça. Priorité à ce qui ramène de la moula. Voilà.
Très bien. Et bah, merci beaucoup, Sonia, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à
Avec
toi.
plaisir pour te retrouver dans le prochain épisode ou au plaisir de t'avoir déjà retrouvé dans l'épisode précédent.
Ça.
Nous sommes en plein Inception. Et voilà. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. À très vite.
Salut.